France Culture.
Ce matin, on parle de Winnicott.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
1941, Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, accepte un poste de psychiatre consultant pour le plan d'évacuation des enfants dans le comté d'Oxford. Ce plan, protéger les enfants des grandes villes du Royaume-Uni des bombardements ennemis. Chaque semaine, jusqu'à la fin de la guerre, Winnicott se rend sur place dans 5 foyers. Chaque semaine, il prend conscience de ce qui deviendra l'essentiel de sa clinique, le lien fondamental qui unit un enfant à ses parents, de bébé à adolescent. Mais comment réparer ce qui a été brisé? Que faire de nos traumatismes d'enfance? Avec quel outil conceptuel et thérapeutique? Place à la clinique de Winnicott et à ce qu'il en reste, aujourd'hui, deuxième épisode de notre série, Donald Winnicott, le psy suffisamment bon.
Nous étions rassemblés dans un hall où les gens venaient nous chercher. J'étais debout dans la file, très malheureuse, et Madame Powell, le chef de cantonnement, m'a prise par la main. Elle m'a emmenée chez elle, et arrivée devant la maison, elle m'a dit: avant de rentrer, il faut que je te prévienne, nous avons un chien. Elle était merveilleuse. Je m'asseyais souvent sur ses genoux pour me faire câliner, et elle me disait: tu es très affectueuse. Mais c'est sans doute parce que j'étais loin de chez moi et que j'avais un grand besoin d'affection. Je me souviens que je pleurais dans mon lit, tellement ma grand-mère, mon grand-père, mon papa et ma maman me manquaient.
Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, professeure de l'Université de Paris-Cité, chef de service de la maison de Solesmes, maison des adolescents de l'hôpital Cochin, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes aussi directrice de la revue transculturelle L'Autre. Vous avez fondé la première unité en France de soins transculturels, c'était à la fin des années 80. Puis une consultation transculturelle pour les parents migrants et leurs enfants à Paris en 2008. On va revenir sur cette archive, ce témoignage d'une petite fille qui a été évacuée en Angleterre au tout début de la guerre en 1939. Mais avant de venir à ce sujet, j'aimerais savoir, Marie-Rose Moreau, quelle place a Donald Winnicott pour un pédopsychiatre en France? À quel moment on le rencontre dans sa formation? Est-ce que c'est un nom que l'on croise ou est-ce que c'est vraiment une référence déterminante à laquelle on pense régulièrement quand on pratique?
Alors, vraiment, je crois que Winnicott, c'est une référence obligée pour un pédopsychiatre. Alors, bien sûr, moi, j'ai été particulièrement sensible et formée par les idées de Winnicott et par la technique et par la position de Winnicott, parce que mon maître Serge Lebovici est un de ceux qui a introduit la pensée winnicottienne en France. Donc, moi, je suis particulièrement habitée par cette pratique et régulièrement, je fais appel à lui et je me dis, tiens, ce patient, j'ai besoin de Winnicott pour bien comprendre et surtout pour bien le soigner. Mais je crois, au-delà de ma position personnelle, Winnicott, c'est vraiment un pédopsychiatre extrêmement important parce qu'il est pragmatique et qu'il est vraiment spécifique des bébés, des enfants et des adolescents. Donc du coup, lorsqu'on devient pédopsychiatre, on est obligé de passer par là. Et je pense que même lorsqu'on prend peu de choses, on prend au moins la consultation thérapeutique, qui est un dispositif qu'il a inventé, c'est-à-dire une manière spécifique de faire avec les enfants. J'ai eu la chance, moi, de monter des missions de pédopsychiatrie dans le monde pour Médecins sans frontières. Et un des seuls, un de ceux qui a été le plus traduit pour servir de base au travail dans les différents pays, l'Afghanistan, le Liberia, la Roumanie, l'Arménie, etc., c'était Winnicott. Donc du coup, on a traduit des fragments de Winnicott.
Mais ça, c'est fou! C'est fou,
dans
c'est
toutes les langues du monde.
C'est-à-dire qu'il y a une pensée universelle de la pédopsychiatrie qui a été proposée, inventée par Winnicott.
Alors, ce n'est pas une pensée, c'est une pratique. Et c'est ça qui fait sa position singulière. Ce n'est pas une pensée, parce que sinon, si c'était une pensée, on se serait battu. Il vaut mieux faire comme ci, mieux faire comme ça. Est-ce que le bébé comprend? Est-ce qu'il ne comprend pas? Non, c'est vraiment une pratique. C'est-à-dire, comment on établit une interaction avec un enfant Qu'est-ce qui va déterminer les effets de tel ou tel événement traumatique sur l'enfant, et comment le consoler, le réparer, comment dépasser cette douleur-là. C'est vraiment dans ces textes fondateurs, c'est vraiment, ça part toujours de la description.
C'est toujours la pratique.
C'est la pratique, et c'est la position aussi du pédopsychiatre. Il était psychanalyste et pédiatre, puis psychanalyste.
Ouais. Il rencontre Freud, et puis effectivement, il y a la société de psychanalyse qui s'installe à Londres dans les années 1910. Après, il y a effectivement la Seconde Guerre mondiale, donc il y a l'exil de psychanalyste viennois, donc Anna Freud. Freud qui meurt à Londres au début de la guerre, mais il y a la controverse avec Mélanie Klein. Enfin voilà, il est quand même dans un bouillonnement. C'est un pédiatre qui baigne quand même dans la vitalité de la psychanalyse de ce début de siècle.
Oui, il est au cœur des débats et des grands débats qui ont ensuite la psychanalyse et la pédopsychiatrie tout entière. Hein.
Mais c'est quoi la différence d'ailleurs entre pédiatrie, psychanalyse, psychiatrie, pédopsychiatrie? Est-ce que c'est des différences de pratique? Est-ce que c'est le fait de pouvoir donner? On dit souvent qu'entre un psychologue, un psychanalyste et un psychiatre, la différence c'est qu'il y en a un qui peut faire une ordonnance et pas les autres. Il y en a un qui a fait des études de médecine et pas les autres. Est-ce que c'est réductible seulement à ça?
Alors là, on a des champs totalement différents. Ce qu'il y a, un pédiatre, on voit très bien que le pédiatre, il va s'occuper, et encore c'est complexe, mais il va s'occuper du corps des enfants et des expressions corporelles des enfants. Mais bien sûr que c'est inscrit dans un fonctionnement global. Les pédiatres, ils savent ça très bien, et Winnicott le savait très bien. Le pédopsychiatre, lui, il va s'intéresser au fonctionnement psychique des bébés, des enfants, des adolescents. Et il a besoin quand même de s'intéresser au corps, mais disons qu'il rentre par le psychisme, mais par toutes les techniques possibles. Le psychanalyste, lui, il y a des psychanalystes d'enfants. Winnicott est un magnifique exemple. Donc un psychanalyste, il va bien sûr s'occuper du psychisme des enfants aussi, mais avec une théorie qui est celle de la psychanalyse. Et Winnicott, il a beaucoup contribué à bien définir et ancrer la psychanalyse de l'enfant. Et puis ensuite, un psychologue, c'est encore différent, mais il peut partager, il peut être psychanalyste ou pas. Oui. Et donc on rentre, toutes ces professions et toutes ces missions, c'est des approches complémentaires de la santé des enfants. Plus somatique, plus psychique, plus intrapsychique, plus lié à l'environnement. Et Winnicott, lui, ce qu'il a amené de manière spécifique, c'est que l'enfant, on ne peut le comprendre qu'avec son corps et son environnement, même lorsqu'on est pédopsie.
C'est ça la révolution Winnicott, c'est d'avoir allié effectivement la dimension pédiatrique, psychiatrique et psychanalytique en se disant il faut prendre l'enfant comme un tout dans un environnement.
Il faut prendre l'enfant comme un tout dans un environnement qui va être la condition même de son développement. Et c'est-à-dire, l'environnement, c'est pas extérieur, c'est la condition de son développement. C'est-à-dire, c'est parce que l'enfant se développe dans un environnement qu'il a ensuite telle ou telle caractéristique. Par exemple, si l'environnement l'a pas assez protégé, il va être traumatisé. Donc ça, c'est une des conséquences. Mais donc l'importance de cet environnement. Et donc quand on parle d'un enfant qui a été fragilisé, Winnicott disait c'est pas l'enfant qui a été fragilisé, c'est l'environnement qui l'a pas protégé. Et donc c'est le processus qui est fragilisé, le processus de développement de l'enfant. Donc on peut le réparer. Ça, c'est une première conséquence. Et le dernier point sur Winnicott, c'est que il était extrêmement pragmatique. Et donc, il utilisait pragmatique et spécifique. Il utilisait tout ce qui était à sa disposition pour comprendre les enfants et les soigner.
Donc quoi, par exemple ?
Aussi bien la pédiatrie que la psychanalyse, par exemple.
Vous avez insisté sur l'importance de l'environnement. Voilà, ça, c'est le grand apport de Winnicott. On en a parlé hier. Est-ce que c'est culpabilisant ou déculpabilisant pour l'environnement. C'est-à-dire que se dire aussi que ça tient à son enfant, c'est une manière aussi de se dire « bah c'est son caractère, il est né comme ça, c'est inné, il est, je ne sais pas quel adjectif on pourrait employer, il est inadapté, il est triste, voilà. » Est-ce que, en fait, paradoxalement, en parlant de mère suffisamment bonne et donc en valorisant les mères, il leur a fait aussi porter une responsabilité qui était lourde, à savoir tout est déterminé par l'environnement chez un enfant. Est-ce qu'il n'y a rien qui tient à l'enfant, à des sortes de... Est-ce que vous, d'ailleurs, vous êtes d'accord, Marie-Ousmane, est-ce qu'il y a un caractère de l'enfant, en fait, malgré tout ?
Alors là, il y a beaucoup de questions en même
ouais,
temps.
Je sais.
Mais je commence par la fin. Oui. Je pense, oui, qu'il y a des caractères des enfants. D'ailleurs, quand on a plusieurs enfants, on se rend compte que, alors qu'on est la même mère, même si c'est pas au même moment, le même père, même si c'est pas au même moment, le même environnement, même si des choses ont
oui.
changé.
Et qu'on peut être premier, deuxième, troisième,
voilà,
c'est pas quand même
mais on
complètement
se rend
pareil.
Compte qu'ils sont pas tous, ils sont pas tous pareils, les
ouais,
enfants.
Ouais.
Ils naissent avec un élan vital différent, avec ils vont investir par exemple plus le regard ou plus quelque chose de l'ordre de l'introspection, ça se voit très très vite. Donc ça, oui, bien sûr que je sais pas, il faut l'appeler comme on veut, le tempérament, il y a des
oui.
éléments génétiques, ce qu'on voudra.
J'ai dit le caractère,
mais
oui.
Voilà, c'est des choses qui mais le caractère, c'est bien parce que c'est là aussi c'est la résultante de toute une série de facteurs qui sont liés au capital avec lequel naît l'enfant.
Donc il y a quelque chose qui tient quand même à ce qu'est l'enfant. Voilà.
Mais l'environnement, d'abord, l'environnement, c'est pas que les mères. Hein. Ça, peut-être qu'il y a eu un malentendu là-dessus. Parce que lorsqu'on pense à Winnicott, on pense évidemment à la mère suffisamment bonne. Mais l'environnement chez Winnicott, c'est bien plus que ça. C'est par exemple aussi ce qui porte la mère, la société.
Ouais.
La manière dont
c'est vrai qu'il
voit...
y a une dimension politique chez Winnicott qui est indéniable. Il parle de la démocratie, il parle de la liberté sans... il parle pas de gratitude, mais sans reconnaissance à l'égard des mères et sans aide pour les mères, on ne prendra pas conscience de l'importance de ces enfants qui deviennent de futurs adultes, en fait, qui constituent la bonne santé de la société.
Oui, oui, il y a un plaidoyer constant hein, pour lui. Il l'a fait, ça fait partie de la fonction du pédopsychiatre. Donc l'environnement, c'est à la fois... les mères, les pères, les grands-parents, enfin c'est toute la famille élargie, hein, toute la famille, ceux qui s'occupent des enfants, y compris ceux dans les crèches ou tous ceux qui s'occupent de l'éducation des enfants. Et puis l'environnement, c'est aussi la continuité, c'est-à-dire le fait que on va disons garantir aux enfants qu'ils vont pouvoir grandir dans une situation sécure, qu'on va les protéger. Et donc, qui les protège, c'est pas les mères seulement, c'est tout le monde qui les protège, c'est la société. D'où l'importance pour lui du plaidoyer, puisqu'il fallait, au fond, rendre la société sensible aux besoins des enfants. Et ça, il l'a magnifiquement fait à partir des situations de crise que vous évoquiez tout à l'heure. Il a montré que dans ces situations de guerre, rompre les liens des enfants, les sortir de Londres pour les mettre à la campagne brutalement, sans leur expliquer ce qu'on était en train de faire, et puis dans des lieux où justement les enfants n'allaient plus avoir l'affection, mais aussi les liens, les stimulations, la connaissance, le familier, c'est important pour le développement des enfants. Ils ont besoin de savoir que les choses vont se passer comme ça, ils ont besoin de familier quand ils sont petits. Après, bien sûr, les adolescents n'aiment plus ça, mais pour les petits, ils ont besoin de ce familier, de cette sécurité, et ils ont besoin de faire confiance aux adultes et au monde sur leur capacité de les protéger. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'ils sont traumatisés par des obus, par des choses graves, ils perdent cette confiance-là dans les adultes, les enfants. Et lorsqu'on les soigne, on doit aller jusque-là. On doit faire en sorte que les enfants récupèrent une petite confiance dans les adultes, parce que sinon ils seront jamais soignés. Ils seront consolés, ils seront réparés, mais ils auront toujours cette peur que ça revienne, qu'un jour, quand ils en auront besoin, de nouveau, la bombe tombe sur la maison.
Alors, on a entendu au tout début de l'émission ce témoignage de Marianne Newland, qui est donc une enfant qui a été évacuée de Londres au tout début des bombardements en septembre 1940. 1939. Est-ce que c'est avec ce moment historique que Winnicott vraiment va formaliser, d'abord pragmatiquement, mais après aussi théoriquement quand même, ce lien fondamental entre des parents et un enfant, ce lien fondamental dans le développement d'un enfant, de l'environnement?
Exactement. Et c'est presque expérimental. C'est-à-dire, la guerre, mais ça arrive régulièrement, mais en tout cas, là, Winnicott, il était dans un moment où ses enfants qui ont été évacués de Londres pour les protéger.
Et c'est ça le dilemme, en fait.
Exactement. Et c'est un dilemme qui existe encore et dont on n'a pas tiré les leçons. Mais disons que Winnicott, lui, il a considéré que cette situation-là était une situation extrêmement importante. Premièrement, il était déjà pédopsychiatre, il s'est engagé. Il a dit oui, un pédopsychiatre a quelque chose à dire sur cette situation. Deuxièmement, il a dit mais qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Ces enfants sont retirés de leur brutalement des liens avec leur mère, avec leur famille, avec leur père, et ils sont mis dans des familles d'accueil ou dans des institutions, hein, puisque il a travaillé sur les deux situations. Et qu'est-ce qui se passe, ces enfants qui arrivent dans des lieux sûrs? Je vais observer ce qui se passe. Il a observé. Il n'avait pas de théorie, je pense, à l'origine. Parce qu'à l'origine, il était un peu comme tout le monde. L'idée, les bombes tombent sur les enfants, on les enlève et voilà, c'est bon. Et donc, du coup, on a sauvé les enfants avec une idée de charismatique. On a sauvé les enfants, des bons sentiments. Lui, il a observé ce qui se passait. Il a dit, mais ces enfants, ils pleurent. Ces enfants, ils ont mal. Ces enfants, ils ont des tas d'expressions somatiques.
Marianne Newland, elle le dit là dans l'archive. Elle dit j'avais besoin de d'être tout le temps avec dans la famille d'accueil, dans le lien, parce qu'elle manquait d'affection.
Mais elle manquait d'affection, elle manquait de lien. Il y a des enfants qui se sont réfugiés dans le mutisme. Et il y a des enfants qui sont devenus entre guillemets comme fous. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de lien avec l'extérieur. Ils n'étaient pas fous du tout. Hein,
Mais ils se sont repliés.
Ils se sont totalement repliés sur leurs sensations. Parce que finalement, le seul point fixe, c'était leur corps et ce qu'ils ressentaient à l'intérieur d'eux. Et du coup, ils se sont fermés au peu de stimulation qu'il y avait dans le monde extérieur. Donc du coup, il a observé tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti les enfants de la guerre. Et en fait, ces enfants vont mal. Ces enfants ne se développent pas, parce que certains ont arrêté de se développer. Et en fait, c'est là où il a commencé à théoriser. Il a théorisé plusieurs choses sur la question du trauma, parce qu'on ne savait pas grand-chose des traumas des enfants à cette période. On savait un peu sur le trauma des adultes. C'est Freud qui l'avait fait avec la Première Guerre mondiale. Mais les enfants, ils oublient la guerre. On pensait qu'il ne se passait rien. Et donc, il a théorisé. Il a théorisé d'abord le trauma direct et indirect. Le trauma direct, c'est les bombes. Le trauma indirect, c'est les séparations. C'est les ruptures. C'est la perte des liens.
Il a conceptualisé
le fait que le trauma, c'était pas seulement la réalité externe, c'est-à-dire une bombe qui tombe, mais aussi le fait que l'environnement ne protège pas des effets de cet événement. C'est-à-dire, s'il y a une bombe qui tombe, mais qu'on a trouvé des moyens... Alors, c'est difficile pour la bombe, parce que ça, c'est un trauma extrême. Mais l'idée, c'est que ce qui va faire trauma, c'est à la fois l'événement et le fait que l'environnement ne peut pas protéger l'enfant. Donc ça, c'était sa deuxième théorisation. Et la troisième chose qui est très importante et que moi, j'utilise toujours beaucoup encore aujourd'hui, c'est le sentiment d'être. C'est-à-dire, est-ce que ce trauma, il va venir faire croire à l'enfant, enfin faire une rupture pour l'enfant, lui faire croire qu'il n'existe plus, il a failli mourir. Il n'existe plus. Donc les enfants n'ont plus, ils ont l'impression qu'ils sont plus consistants, qu'ils n'existent plus. Et ils perdent ce que Winnicott va théoriser un petit peu plus tard sur la théorie de la vie. C'est-à-dire ce qui fait mal dans le trauma chez ces enfants traumatisés, c'est le fait qu'ils perdent la théorie de la vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus... Ils n'ont plus d'élan vital. Ils ne peuvent pas dire je veux continuer à grandir parce que je suis contente de vivre, de voir ma maman, mon papa, ma grand-mère et mes poupées ou mes camions. Mais ils ne peuvent plus se dire ça.
Il n'y a plus le goût de vivre comme on dit.
Ils perdent l'élan vital. Ouais. Ils perdent ce mouvement-là Et donc, rien ne vaut rien. Et donc, lorsqu'on les répare, lorsqu'on les soigne, il faut aller jusque-là. Il faut retrouver un élan vital. Mais c'est dur lorsqu'on a perdu confiance dans les adultes.
Les enfants de Bordeaux sont évacués vers le département hospitalier du Lot-et-Garonne afin de les soustraire au danger des bombardements. L'entraide n'est pas un vain mot. Et près de 7000 familles se sont spontanément offertes pour recevoir les réfugiés. Le départ avec une nouvelle famille. Ailleurs, les petits Bordelais entourés de soins et d'affection attendront paisiblement dans ces crèches des jours meilleurs.
Monsieur. L'évacuation des jeunes enfants âgés de 2 à 5 ans pose d'importants problèmes psychologiques. Des plans d'évacuation sont en cours d'élaboration et avant qu'ils ne soient finalisés, nous souhaitons attirer l'attention sur ces problèmes. L'évacuation d'enfants plus âgés a été suffisamment couronnée de succès pour montrer, si cela n'était pas déjà connu, que de nombreux enfants de plus de 5 ans peuvent supporter la séparation d'avec leur foyer et même en tirer profit. Il ne s'ensuit pas pour autant que l'évacuation d'enfants plus jeunes sans leur mère puisse être tout aussi réussie ou exempte de danger. Parmi les nombreuses recherches menées sur ce sujet, on peut citer une étude récente réalisée à la London Child Guidance Clinic. Elle a montré qu'un facteur externe important parmi les causes de la délinquance persistante est la séparation prolongée d'un jeune enfant de sa mère. Outre les anomalies graves telles que la délinquance chronique, des troubles légers du comportement, de l'anxiété et une tendance à des maladies physiques vagues peuvent souvent être attribués à ces perturbations de l'environnement du jeune enfant. Il est tout à fait possible qu'un enfant, quel que soit son âge, se sente triste ou bouleversé à l'idée de quitter son foyer. Mais ce que nous voulons souligner, c'est que pour un jeune enfant, une telle expérience peut avoir des conséquences bien plus graves que la simple tristesse. Elle peut en effet entraîner un blackout émotionnel et facilement mener à une perturbation sévère du développement de la personnalité, avec des répercussions qui peuvent persister toute la vie. Ces points de vue sont souvent remis en question par les travailleurs des crèches et des foyers pour enfants, qui évoquent la manière extraordinaire avec laquelle les jeunes enfants s'habituent à une nouvelle personne et semblent tout à fait heureux. Cela est peut-être vrai, mais à notre avis, ce bonheur peut facilement être trompeur. Il y aurait beaucoup plus à dire sur ce problème sur la base des faits connus. Par cette lettre, nous souhaitons simplement attirer l'attention des autorités sur l'existence de ce problème.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Il faut souligner, Marie-Rose Moreau, la précocité, la lucidité de Winnicott qui écrit cette lettre le 16 décembre 1939. C'est Axel Dubois qui a préparé cette émission, qui a trouvé cette lettre et qui tranche complètement avec l'archive qu'on a entendue de 1943. C'est une archive à prendre avec des pincettes. C'est une archive de la France occupée, contrôlée par les autorités de Vichy, avec la petite musique sur ses enfants, l'entraide. Lui, Winnicott, dès 39, nous dit c'est un bonheur trompeur, avec cette distinction qui nous semble fondamentale entre la tristesse et le blackout émotionnel. Qu'est-ce qu'il entend par là, Marie-Rose Moreau ?
Oui, effectivement. Hein, c'était déjà le fruit. C'est révolutionnaire, mais c'était déjà le fruit de son travail, de ses observations, et en particulier des enfants dans les institutions avec lesquels il avait déjà travaillé à cette époque. Et donc, ce qu'il entend par là, effectivement, ce fameux bonheur trompeur, c'est-à-dire, c'est des enfants qui pour survivre à une situation de rupture relationnelle et émotionnelle, mais les deux, les émotions et les relations, les deux sont importantes pour Winnicott, vont se blinder, ils vont se fermer d'une certaine façon, ils vont construire une carapace, qu'il appellera d'ailleurs faux self à certains moments, régulièrement. Non, parce que ça a évolué un petit peu. C'est comme c'est des mécanismes de défense, et que le développement en plus vient s'ajouter à cela. Et donc, en tous les cas, les enfants se blindent, c'est comme s'ils cachaient le noyau de leur être, ils recouvrent ce noyau de choses fausses, mais qui sont, disons, des choses adaptatives. C'est pour survivre dans un nouvel environnement, avec des nouveaux liens, avec des nouvelles personnes, et avec des personnes qui ont avec eux des liens très différents de celles des liens qui les avaient rassurés, qui les avaient permis de grandir. Donc, ça va avoir des conséquences sur la question du trauma, mais aussi sur la compréhension de ce qu'on appelait à cette période une dimension antisociale, c'est-à-dire des enfants qui vont, par exemple, être délinquants. Et dont on va considérer que le seul problème, c'est le fait qu'ils aient des troubles du comportement, qu'ils fassent des choses interdites ou transgressives. Et en réalité, lorsqu'on les soigne, lorsqu'on les reconnaît comme des enfants en difficulté, on va trouver ce que dit Winnicott déjà à cette période, on va trouver un noyau sain, c'est-à-dire un développement antérieur, disons, qui s'est arrêté parce qu'il y a eu un événement traumatique qui est venu remettre en question leur développement. Et à ce moment-là, c'est comme si cette ligne du développement s'était arrêtée et ils vont se développer d'une autre manière, avec un faux self, mais aussi avec comme ils n'ont pas confiance dans l'environnement qui les a trahis. Il y a une très belle phrase de Winnicott qui dit qu'il y a une dette de l'environnement envers ses enfants, puisque à un moment donné, voilà, les enfants ont été trahis, ce qu'ils avaient besoin pour grandir leur a pas été donné. Alors ils en veulent au monde entier, ils en veulent parfois à leurs parents, mais ils en veulent au monde entier, et ils en veulent aussi aux thérapeutes, d'ailleurs, à ceux qui vont s'occuper d'eux. Donc il faut aller au-delà de ça et reprendre un cours du développement et les sécuriser.
Ce qui est intéressant dans la lettre qu'on entend, c'est que Winnicott mentionne deux types de dangers, c'est-à-dire les problèmes politiques et sociaux, c'est-à-dire la délinquance qui va apparaître plus tard. Et là, on a quand même l'impression de retrouver des discours qu'on connaît sur la délinquance, mais sans la dimension importance de qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de ces enfants. Et puis, il y a la dimension purement psychologique. Il parle de problèmes psychologiques, troubles du comportement, anxiété, maladie physique vague. Comment, en si peu de temps, dès 39, Winnicott a pu voir ça, a pu faire aussi cette distinction entre des enfants entre 0 et 5 ans et des enfants plus âgés. Là, l'expérience, elle est rapide.
Mais là, il a un côté,
prophète.
Visionnaire un peu, mais en réalité, là encore, c'est toujours la technique de Winnicott. Il avait déjà travaillé avec ses enfants. Il a travaillé.
En fait, il recoupe tout au moment de la guerre.
Oui, c'est ça. Avant même la guerre. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que la guerre lui a servi de champ expérimental. Bah, c'est comme si c'était concentré, puisque là, il y avait des événements traumatiques collectifs d'une gravité extrême. Et donc, il a observé les effets sur les enfants. Mais il avait déjà travaillé. Il a travaillé plus de 40 ans dans la même clinique à Londres. Et dans les institutions sociales, puisque c'était un pédopsychiatre très social, et il avait déjà observé des enfants, il les avait déjà rencontrés à tout âge, y compris des enfants dits délinquants, donc dits perdus pour la médecine. Et il s'est rendu compte que c'est pas du tout.
Mais c'est toujours le cas, Marie-Rose Moreau, c'est-à-dire
aujourd'hui.
Oui.
C'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas...
Aujourd'hui, par exemple, quand on rencontre des enfants plus âgés qui sont dans cette tendance antisociale ou dans la délinquance que décrit Winnicott, est-ce que grâce à la pédopsychiatrie de Winnicott, on peut dire aujourd'hui, en fait, c'est pas... Il y a toujours ce noyau sain dont vous parliez. C'est-à-dire qu'il y a toujours une enfance, en fait, qui allait bien, mais il y a eu un enfant qui a fait rupture.
Toujours. Dans mon expérience, effectivement, et moi je m'occupe beaucoup de bébés, d'adolescents, depuis plus de 30 ans, et je crois, et j'en crois aussi les études, hein, puisque nous avons beaucoup d'études sur le développement de ces enfants, il y a toujours le même schéma, c'est-à-dire un environnement défaillant, un environnement qui ne protège pas l'enfant de traumatismes extrêmes à cet âge. Alors, plus ou moins, il y a plusieurs types d'événements traumatiques, mais il y a aussi plusieurs types d'environnements. C'est-à-dire que si l'environnement est capable, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple d'un enfant qui perd sa mère ou qui perd son père. C'est un événement traumatique extrêmement important, sans doute extrême, hein, même si on peut c'est difficile de hiérarchiser, mais c'est très important comme événement. Mais si l'environnement, ceux qui restent après cette mort, par exemple, d'une mère, ceux qui restent arrivent à permettre à cet enfant de se consoler et de reconstruire des liens de nature maternelle avec le monde, parce que ça ne sera plus avec la mère, eh bien, les enfants, à ce moment-là, vont dépasser cela. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Dès qu'on a un événement traumatique, plus ou moins important, l'environnement n'arrive pas à s'adapter aux besoins des enfants, aux besoins du développement. Et du coup, oui, aujourd'hui, lorsque vous rencontrez un adolescent transgressif, un adolescent dit, qui a des comportements antisociaux...
Encore ça, d'ailleurs ?
Non.
Antisociaux, ça se dit encore ?
Ouais, pourtant, c'est plutôt pas mal, comme, parce que c'est pas, ça juge pas, ça dit juste les faits. Mais en tous les cas, chaque fois, vous avez ça. Mais le problème, c'est que il faut croire qu'on est capable de voir ça. C'est-à-dire, et ça, Winnicott le dit, il faut avoir cette théorie-là, c'est-à-dire il faut le rechercher, cet événement et cette défaillance de l'environnement, il faut le rechercher.
Presque comme un enquêteur, en fait.
Exactement.
Vous parlez avec un enfant, mais en fait, vous vous intéressez à la fois à ce qu'il a en lui, mais en fait, surtout, comment il va raconter ce qu'il a traversé. Plutôt.
Exactement. Mais même, comment on fait ça ?
Oui, dites-nous, comment vous faites-vous en cabinet ?
À l'hôpital.
À l'hôpital.
Mais Winnicott, c'était pareil, il était à l'hôpital public. Il faut raconter la vie quotidienne de cet enfant. Il faut raconter toute la vie, tout ce qui a été important pour lui. Et parfois, d'ailleurs, on est parfois presque obligé de faire des hypothèses. C'est-à-dire, on se dit, je pense à une histoire, c'est une histoire... Parce que moi, quand je suis en difficulté avec un enfant, des fois, je me dis, tiens, là, j'ai besoin de mon maître Lebovici pour telle chose, et qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place ? Ou alors, pour Winnicott, je me dis parfois... Tiens, ça, c'est un enfant winnicottien. C'est-à-dire que c'est un enfant pour lequel l'environnement n'a pas été suffisamment protecteur. Donc, c'est ça qu'il faut chercher. Mmh. C'est là où il faut faire une enquête. Alors, je vous raconte rapidement une histoire, mais elle est restée dans ma tête comme l'histoire la plus winnicottienne de ma vie. J'étais avec Médecins sans frontières en Afghanistan dans les années 2000. Et donc, nous avions monté un programme pour les enfants qui revenaient du Pakistan, où ils avaient été obligés de s'exiler. Et voilà un garçon qui arrive avec sa mère. Manifestement, le garçon, il avait déjà 8 ans, il était grand, mais sa mère le portait pour l'amener à la consultation. À la consultation de Médecins sans frontières. Donc c'était, et on voyait bien que cet enfant était collé à sa mère. Et donc, cet enfant, depuis l'âge de 5 ans, donc depuis 3 ans, il ne parlait plus. Et qu'est-ce qui s'est... il ne parlait plus. Et donc, un enfant qui ne parle pas, c'est souvent, surtout à cet âge-là, assimilé à un enfant qui a perdu la raison. C'est-à-dire, si on n'est plus capable de parler, c'est qu'on a on est un peu fou, qu'on a perdu ce qui fait l'humanité. Donc, tout le monde considérait que cet enfant était devenu fou, sauf sa mère, qui, elle, disait « Non, mon enfant a été blessé. » Elle disait comme ça « Mon enfant a été blessé. » Et donc, qu'est-ce qui était arrivé ? Donc, c'est là où il faut reconstituer vraiment très concrètement.
Oui, là, vous vous dites quel a été l'événement et comment l'environnement
voilà,
a
la protéger ou pas. Voilà. Exactement. Et là, donc là, je dis, la maman dit, mon enfant n'est pas fou. Donc, il y avait un interprète. Je lui dis, effectivement, les mères savent. Si vous dites que votre enfant...
Là, vous êtes winnicottienne aussi.
Oui, déjà. Exactement, j'étais winnicottienne. Les mères savent, effectivement, votre enfant n'est pas fou. Mais ça, c'est très important, parce que du coup, on rentre dans quelque chose de très différent. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui a manqué ? Et donc là, on commence à raconter. On raconte plusieurs choses. Elle commence à me raconter des choses, d'ailleurs, autour de sa naissance. Mais surtout, elle me raconte... qu'à l'âge de 5 ans, il y a une bombe qui est tombée sur l'atelier familial des gens qui faisaient des tapis, qui avaient constitué un atelier. Et il y avait une grand-mère, sa mère à elle, qui était très douée pour faire des tapis et qui était un atelier autour de la grand-mère maternelle. Et le petit, qui à ce moment-là avait 5 ans, mais qui était toujours dans les jupes de sa grand-mère et apprenait déjà à faire des jolis motifs pour... Comme sa grand-mère. La bombe tombe sur l'atelier, la grand-mère meurt et tous les autres survivent. L'enfant arrête de parler le jour même. Le père part à la guerre parce qu'il est extrêmement en colère contre ce qui s'est passé. Donc, il part se battre et reste l'enfant avec une plus grande sœur qui, elle, va bien. Et la mère qui est triste d'avoir perdu sa mère, qui a perdu son mari, qui est parti à la guerre, qui sans doute ne reviendra pas. Et ils restent tous les deux. Donc, trauma direct, la bombe.
Avec la grand-mère qui décède.
Voilà, trauma indirect, le fait que la grand-mère est décédée, que sa mère, elle aussi, a perdu sa propre mère, son mari, etc. Bon. Donc, un environnement totalement défiant. Et le lendemain de la bombe, ils s'en vont au Pakistan. Ils sont pour se protéger. Mais ils s'en vont quand même tous les trois. La mère part avec ses deux enfants. Et donc, et depuis, ils ne parlent plus. Et donc, ils sont tous les deux aussi traumatisés l'un que l'autre. Mais l'un, la maman, c'est un trauma d'adulte. La seule qui n'est pas traumatisée dans cette affaire, c'est la grande sœur, qui, pour des raisons multiples, elle n'est pas touchée et résiste, celle qui résiste. Alors, la consultation, elle a consisté finalement à revivre ce qui s'était passé. Donc, je dis à l'enfant, ta mère dit que tu n'es pas fou, donc tu n'es pas fou. Et donc, on va dessiner ce qui s'est passé le jour où tu as perdu, où toi, tu as perdu la parole. Donc, et pourquoi j'ai choisi le dessin, Winnicott, oui. L'environnement, mais aussi parce que c'était un garçon qui était très doué dans les tapis. Et comment on fait pour les tapis? On dessine, en fait.
Puis il ne parlait plus.
Il ne parlait plus, bien sûr. Mais il faut utiliser quelque chose qui soit quelque chose d'important pour les enfants. Et là, en l'occurrence, un garçon artiste, en fait, un garçon qui savait faire des motifs à 5 ans et qui continuait à en dessiner, d'ailleurs, c'était très important. Il fallait rentrer on n'avait pas le choix, il fallait rentrer par le dessin. Donc, on commence à dessiner. La maman avait dit que le jour de la bombe, il y avait beaucoup de vent. Il y avait énormément de vent et que depuis, et c'est pour ça qu'il faut raconter, là, que depuis, chaque fois qu'il y a beaucoup de vent, l'enfant se cache sous le lit. Et pendant plusieurs jours, il refuse de manger. Hein. Donc, il a des symptômes qu'on dirait aujourd'hui post-traumatiques, en fait. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui lui rappelle...
Il revit.
L'événement. Donc, il le revit, mais il le revit en boucle. Et donc, à chaque fois, il va plus mal. Et donc, je lui dis, bon, on va dessiner. Alors, on se met à dessiner quelque chose. On fait un squiggle, c'est-à-dire on dessine à quatre mains. Et très vite, il se met à dessiner avec moi. Il dessine beaucoup mieux que moi. Et on dessine quelque chose comme des immeubles qui tombent. Donc, il y a des immeubles debout, puis après, ils tombent. Enfin, on dessine quelque chose de détruit. Et puis, je lui dis, bon, ça correspond bien à ce qui se passe. Ça correspond bien à ce que tu as dans ta tête et tout ça. Et puis là, il se met à sangloter quand je lui demande si ça correspond à quelque chose à son souvenir. Il pleure. Et la mère dit, non, je veux pas que vous fassiez pleurer mon fils. On s'arrête là. Alors je lui dis, mais madame, la guerre, elle a bien eu lieu, on est d'accord. Et elle me dit, oui, alors il faut, je lui dis, on va la vivre ensemble. Elle finit par accepter, mais c'est très important. Parce que la mère, là, elle va être un support très important.
Elle accepte.
Elle accepte que l'on vive ça. Donc, on continue à casser le dessin, si j'ose dire. Et à un moment donné, je vois qu'il arrête de sangloter et il commence à me regarder. Et à ce moment-là, j'ai l'idée, c'est là l'idée winnicottienne, hein, mais c'est totalement Winnicott, j'ai l'idée de dessiner le vent ce vent qui était là ce jour-là, et de le dessiner, mais de le dessiner en train de partir. C'est-à-dire, je commence à dessiner le vent, mais un vent qui est en train de quitter le dessin, qui est en bas à droite de la feuille. Et là, je pense qu'il c'est ce qu'on appelle un moment sacré en psychothérapie, c'est-à-dire qu'il perçoit mon intention, il perçoit, il ressent les choses, il a ressenti la destruction, mais il ressent aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Et donc là, il prend son crayon et il troue la feuille en...
À force de gribouiller.
Ah, voilà,
il le rature.
Il le rature très fort. Et là, le vent s'en va. Et là, il dit un mot. Il me dit, viens, enfin un mot, il dit une phrase. Viens, je vais te montrer mes dessins de tapis. Et il sort de dessous...
Il n'avait pas parlé depuis des années.
Non, il n'avait pas parlé depuis des années. La mère se met à pleurer, bon bref. Et tout le monde pleure, mais là on pleure. Enfin moi, je ne pleure pas parce que je suis plutôt prise par un sentiment de joie.
Vous êtes dans la profession aussi.
Et puis par un sentiment de joie. Oui. Parce que... Mais le garçon est devenu joyeux, quoi. Et voyez ce qui s'est passé. On a revécu ensemble, mais grâce à la mère, tout ce qui s'était passé. Et puis au lieu de le subir et de mourir, il a été actif, cet enfant. Il a détruit le vent mauvais. Il a détruit le... Et donc on a revécu, symbolisé et transformé le ce qui s'était passé grâce à la mère, grâce à l'environnement et grâce à la langue.
Alors voilà, c'est une question que je voulais vous poser, Marie-Rose Moreau. C'est que là, vous insistez bien sur le rôle de la mère, mais chez Winnicott, quand il parle de traumatismes qui ont lieu dans l'enfance, il dit que c'est au thérapeute de les faire revivre en cabinet, à l'hôpital, mais il ne parle jamais en fait du pouvoir ou des parents. Par exemple, des parents qui ont été séparés de leurs enfants pour une dépression, une maladie, parce qu'on leur a retiré la garde. Est-ce que le fait de retrouver leurs enfants, est-ce que le fait de leur parler, ça peut réparer comme un thérapeute peut le faire? Est-ce qu'un trauma peut être réparé par des parents qui, au départ, ont été peut-être, je dirais pas créateurs, mais ont été, voilà, ont provoqué une rupture et donc un trauma?
Alors, oui, mais avec des limites. C'est-à-dire que si, admettons, une séparation extrêmement violente entre des parents, mais si après, chacun des parents, là où il est, dans sa vie, fait un travail lui-même, ou change, ou comprend ce qui s'est passé et les effets sur l'enfant, le fait que chacun des parents vienne voir l'enfant et lui dise... On s'est mal comporté à ton égard, mais on était tellement en colère l'un contre l'autre, etc., que voilà ce qu'on a fait, mais on te demande pardon, parce que ça existe.
Donc le pardon, se racheter. En
fait. Se racheter, et on aurait dû te protéger de ça, c'est-à-dire qu'on reconnaît, et oui, on peut, mais à partir du moment où la limite, c'est qu'à partir du moment où on dit que l'environnement est essentiel pour la construction de l'être, de l'être des enfants, on dit aussi que de temps en temps, il y a des environnements défaillants. Mais jamais il dit c'est les parents qui sont responsables. Ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand dans toutes les thérapies chez Winnicott, tous les grandes situations cliniques qu'il raconte, il y a toujours quelqu'un, soit un parent, soit... quelqu'un qui a une fonction parentale, par exemple la dame d'une institution ou la famille d'accueil. Il considère que l'élément essentiel dans l'environnement, c'est les soins aux enfants. Mais les soins aux enfants, parfois,
peu importe qui les donne, en fait.
Peu importe, et peu importe aussi les conditions. C'est-à-dire que parfois, il y a des parents qui sont en telle difficulté qu'ils ne peuvent pas momentanément assurer leur devoir de parent.
Avant qu'on passe, parce que le temps avance, Marie-Rose Moreau, et qu'on passe à la question de l'adolescent, car Winnicott a aussi parlé des adolescents. Le phénomène qu'on a décrit, les traumas, c'est aussi un phénomène que Winnicott appelle la déprivation, c'est-à-dire qu'on a été privé de quelque chose qu'on avait connu, ce qui n'est pas pareil que la privation, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que certains traumas sont vécus par comme des traumas par certains enfants, pas comme des traumas par d'autres. Par exemple, la grande sœur dont vous parliez de ce patient Winnicottien en Afghanistan. Qu'est-ce qui fait que des enfants qui n'ont pas vécu ni la guerre, ni la mort d'un parent se sentent pourtant en discontinuité et en perte et ont eu un trauma qui semblerait sur le papier pas être un trauma? Oui. Comment vous expliquez ça?
Oui, alors ça, c'est une question très importante parce que quelles sont les ressources des enfants? Moi, je pense que la résilience, c'est pas un bon terme, c'est plus que de la résilience, c'est de la construction. Qu'est-ce qui fait que cette jeune fille, elle a résisté à tout?
Et est-ce que c'est parce qu'elle était plus âgée? Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas oppressivement au même endroit?
Voilà. Et d'ailleurs, c'est une jeune fille qui sans doute va faire qui a sans doute fait, dans la mesure du possible en Afghanistan, mais des études, parce que c'est vraiment une jeune fille qui pensait énormément. Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, il y a des questions de vulnérabilité du développement. C'est-à-dire, effectivement, et ça, il y a plein d'études qui l'ont montré, chez les petits, chez les adolescents, les petits et les adolescents, les petits, on va dire, en dessous de 5 ans, et les adolescents, sont très dépendants des liens avec leurs parents. Mais entre 5 et 11 ans, on est beaucoup moins dépendant de ces liens. C'est lié au moment du développement. C'est-à-dire que les tout-petits, où ils ont besoin des interactions concrètes avec leurs parents. Et les adolescents, c'est plus des interactions presque théoriques, intellectuelles. Mmh. Mais c'est des périodes où on a énormément besoin de la relation, y compris pour s'y opposer chez les adolescents. Donc, tous les traumas, même les traumas de guerre, sont beaucoup plus importants chez les petits et chez les adolescents que chez les enfants en période de latence, entre 5 et 11 ans. C'est lié au développement lui-même. Ça, c'est un
et vous
facteurs.
Parlez bien de développement et pas de stade, comme Freud. C'est pas on saute d'un stade à l'autre, tout à coup, bam, dépendance absolue, bam, dépendance relative. Non.
C'est
vraiment
plus dynamique.
Plus fluide.
Ouais, c'est beaucoup plus dynamique. Ça, c'est un des points. La dépendance à l'égard de l'environnement, finalement. Le deuxième point qui explique, c'est c'est plurifactoriel, on n'a pas une seule
cause. Qui est claire, disons.
Qui est claire un peu, voilà. c'est aussi le fait que certains enfants vont trouver rapidement, si j'ose dire, dans l'environnement, des éléments qui vont compenser. Alors, chez la jeune fille dont je parlais, la sœur de Massoud, moi, j'ai pensé que ce qu'elle avait trouvé, elle, comme élément protecteur, c'était la prière. C'était une jeune fille qui priait beaucoup, mais c'était une intellectuelle de la prière. C'est-à-dire qu'elle étudiait la prière, la sœur de Massoud. Massoud ne priait pas, ne s'intéressait pas aux prières. Mais elle avait trouvé, alors sans doute parce qu'il y avait dans son entourage une dame, une vieille femme, enfin une femme d'un certain âge, qui lui a appris la prière, qui lui a appris à prier. Et donc ça, elle, parce que moi ça, j'ai été intriguée, j'ai cherché chez elle qu'est-ce qui lui avait permis de résister alors que personne autour d'elle n'avait résisté. Et la première chose qui est venue, c'était cette dame, qu'elle appelait...
N'était donc pas sa mère, mais qui faisait partie de l'environnement.
Qui faisait partie de son environnement. Et il y a beaucoup comme ça dans l'environnement. Mais pourquoi certains enfants vont réussir à trouver? Elle l'a cherché activement, elle l'a cherché activement.
Donc ça veut dire qu'elle avait quoi? Une organisation? Winnicott parle d'organisation de défense. C'est-à-dire que quand un événement arrive...
Il faut se défendre.
Voilà, faut se défendre. Et donc soit les défenses réagissent, soit en fait une réorganisation des défenses se met en place. Et là, parfois, de manière problématique, parce que ça va être des défenses... des fausses défenses, voilà, de narcissisme, d'antisocialité, de faux self, de psychose aussi.
Bien sûr, de psychose. Mais il y a une sorte d'élan vital quoi, chez chacun des enfants. Et donc, les enfants vont chercher dans la réalité externe, évidemment, des éléments de consolation. Il y en a qui vont trouver, et puis d'autres, du fait de la réalité externe, qui vraiment ne leur offre aucune possibilité, ou parfois d'éléments qui leur appartiennent à eux, qui sont, par exemple, leur timidité ou leur inhibition. Mais la sœur de Massoud, c'était une jeune fille extrêmement extravertie qui m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais, comment j'étais devenue médecin, etc. Donc on voyait qu'elle n'avait pas le même âge.
Ceux qui s'occupent de psychologie dynamique sont généralement d'accord pour définir l'adolescence en fonction du développement affectif de l'individu. Le garçon ou la fille de cet âge doit affronter les modifications de sa personne dues à la puberté. Il ou elle parvient au développement de la capacité sexuelle et aux manifestations sexuelles secondaires avec un passé personnel qui comprend entre autres un système personnel d'organisation des défenses contre l'angoisse, quel qu'en soit le type. En particulier, tout être en bonne santé a vécu, avant la période de latence, un complexe d'Oedipe vrai. C'est-à-dire qu'il a eu l'expérience des deux principales positions dans la relation triangulaire avec les deux parents ou les substituts parentaux, et chaque adolescent a connu des moyens organisés de se garder de la souffrance ou d'accepter et de tolérer les conflits inhérents à ces conditions essentiellement complexes. Aussi, le garçon ou la fille parvient à la puberté avec des schèmes prédéterminés en raison de ses expériences de nourrisson et d'enfant. Le problème qui en résulte peut être plus ou moins grave et d'un type très différent, mais le fond est le même. Comment cette organisation du moi fera-t-elle face à cette nouvelle poussée du ça ? Comment les modifications de la puberté s'intégreront-elles dans le schéma de la personnalité particulier à l'individu en question ? Comment chacun traitera-t-il ce nouveau pouvoir de destruction ou même de mort ? Ce pouvoir qui ne venait pas compliquer les sentiments de haine de la petite enfance. C'est comme si l'on mettait du vin nouveau dans de vieilles outres.
Extrait d'un texte de Donald Winnicott, L'adolescence, paru en 1962, lu par Noé Margas. On parle beaucoup de Winnicott qui a mis le doigt sur cette relation entre le bébé et sa mère et l'environnement, on va dire Marie-Rose Moreau. Mais on oublie parfois qu'il a écrit aussi sur l'adolescence, qui est quand même un passage, et il le dit dans le texte, d'un type très différent, mais avec un fond qui est le même. Comment l'individu, dans son développement, va réagir à cette pousser du ça, donc les pulsions, à comment il va se réorganiser en termes de défense. Pourquoi il a innové de manière majeure aussi sur ce terme d'adolescence, sur ce concept d'adolescence, Winnicott.
Alors,
et vous avez 3 minutes, je le signale direct.
Alors, premièrement, il a montré que l'adolescence était une phase du développement comme une autre. Hein, et que donc il fallait le considérer comme tel, comme un développement et pas comme une maladie ou comme quelque chose d'antisocial par exemple, et que ça passait, que le seul médicament c'était le temps, et que donc et c'était la capacité des adultes, parents et société, à résister
à l'accélération, au désir d'accélération,
et parfois à l'agressivité qu'il y a dans cette phase. Il a beaucoup insisté sur l'agressivité, mais une agressivité qu'il considère comme normale.
Pas l'antisociabilité du trauma.
Non, il a cette belle phrase, hein, vous avez semé un bébé et récolté une bombe. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce que c'est une bombe. C'est une bombe pour lui, d'abord pour l'adolescent lui-même. Mais c'est aussi une bombe pour les parents parce qu'il vient interroger les parents sur vraiment leur fondement de parents, parce qu'ils sont adolescents, donc ça se situe plus du tout comme les petits. Et leur fondement, on a réuni certains textes sous le titre de Conseils aux parents et aux éducateurs. Et dans ces conseils aux parents et aux éducateurs, il dit avec les adolescents, il y a une seule chose à faire, être authentique. Être authentique.
Ah, mais ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire qu'il faut. Les adolescents, ils sont en période de construction. Ce qui construit, c'est d'abord des valeurs. Il faut en face que nous, les parents, on comprenne que ce qu'ils font, c'est extrêmement sérieux. Et que c'est quelque chose de pulsionnel, c'est quelque chose de très profond. Et que donc, du coup, la seule manière, c'est les protéger contre des excès éventuels. La seule manière de faire avec eux est de considérer qu'ils sont en train de construire un être nouveau qui seront les adultes de demain.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer. laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs arrosées. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne.
Alors non, ne laissez pas les enfants pleurer, Dan Sylvestre. Merci à vous, Marie-Rose Moreau. De vous, on peut lire Bye Bye l'angoisse, vivre en bonne santé mentale, illustré par Anne-Hélène Dubré, c'est aux éditions Casterman. On peut lire aussi De vous, la parole est aux enfants, abus sexuels, coécrit avec Odile Amblard et paru aux éditions Bayard, et chez Odile Jacob pour le bien-être et la santé des jeunes. Vous écoutez France Culture, il est 10h55 et c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi dialogue-t-on à travers l'histoire ? Nous avons parfois l'impression, à tort ou à raison, que certains artistes, certains penseurs, certains philosophes aussi dialoguent à travers l'histoire, à travers les âges, comme si cette distance n'empêchait pas et même permettait, imposait la discussion. Oui, sans doute, tous les philosophes ont-ils discuté avec Platon et Aristote et continuent-ils de le faire ? Là, ce sont des références historiques, peut-être pas des dialogues vivants, mais parfois il y a des dialogues plus vivants et on peut même se demander plus fondamentalement si l'histoire humaine ne consiste pas au fond dans ces dialogues eux-mêmes. Ainsi, avais-je été frappé récemment par la façon dont la première phrase du procès de Kafka me semblait dialoguer avec la première phrase de la recherche du temps perdu de Proust. Oui, cet homme qui se réveille emprisonné répond peut-être directement ou indirectement au petit garçon qui voulait se coucher. Et on pourrait même la relier à une troisième première phrase qui traverse aussi une autre épreuve du XXe siècle, la première phrase de « En attendant Godot » de Beckett. Quelle est cette première phrase, cette première réplique ? « Je suis content de te revoir ». C'est ce que Vladimir dit à Estragon. « Je suis content de te revoir ». Voilà comment commence la pièce qui semble être celle du désespoir après les catastrophes de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est une retrouvaille minimale, un revoir après toutes les pertes, un revoir qui va certes piétiner, être tragique, mais quand même aussi une retrouvaille et une conversation et le retour de l'art. Oui, l'art est fait aussi de ces conversations. On ne sait pas si Beckett pensait à Kafka et Proust et si Kafka répondait à Proust avec cet homme, ce Joseph K., qui se réveille emprisonné. Est-ce qu'il pensait à Marcel, celui qui voulait se coucher de bonne heure, avait la nostalgie de ses couchers inquiets mais confiants dans la maison familiale. Mais ces dialogues constituent peut-être l'histoire humaine dans sa profondeur. C'est en tout cas la thèse d'une des philosophies de l'histoire de l'art la plus méconnue peut-être encore aujourd'hui, mais peut-être aussi importante que les plus grandes, que celle de Hegel ou de bien d'autres, celle d'André Malraux au cœur du XXe siècle. Malraux pensait en effet, notamment dans le musée imaginaire et dans beaucoup d'autres textes, que les artistes ne copient pas le monde, les peintres en particulier, ne copient pas la nature comme s'ils commençaient à partir de zéro. En fait, ils répondent aux peintres précédents. Ainsi, Picasso ne veut pas seulement inventer une nouvelle manière de peindre pour le plaisir ou pour montrer un nouvel aspect du visage humain en le déformant, par exemple, de manière cubiste. Non, il veut répondre à Cézanne. Et Cézanne veut répondre à Manet. Et Manet veut répondre à Ingres. Et ainsi, chaque peintre répond d'abord à sa place dans l'histoire de la peinture. Oui, il y a d'abord cette sorte de dialogue interhumain qui constitue peut-être non seulement l'histoire de l'art, l'histoire de la culture, mais l'histoire en général. Les mathématiciens veulent relever les défis des problèmes jetés 100, 200, parfois 1000 ans plus tôt par d'autres mathématiciens. La pensée est profondément relationnelle. L'histoire humaine est faite de dialogues qui sont des ruptures, qui sont des critiques. L'histoire se fait aussi par des discontinuités, mais des dialogues qui sont des échos, qui sont des reprises et qui traversent ce que la chronologie parfois nous ferait de manière réductrice considérer comme incommunicable. Oui, l'histoire humaine est faite de ces dialogues. Pourquoi les dialogues humains continuent-ils à travers l'histoire, à travers les années? Quand on passe d'une année à l'autre, on doit comprendre que la conversation continue.
Merci beaucoup Frédéric et merci à toute l'équipe, Axel Dubois, Monse Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar, Victoire Mellet et Nassim El Kabli, à la réalisation Colin Gruel, à la prise de son Guillaume Ficheux. Toutes les émissions sont à retrouver sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.